Chapitre 50. La tablette tactile vibra dans la poche de Christophe. Il glissa sa main à l'intérieur pour lire du bout des doigts les mots de son frère. « Elles ne parlent plus, elles ont coupé le rayoc. » Il leva les yeux. Amos se tenait toujours accroupi devant le wagon atelier, l'oreille plaquée contre la porte. Christophe répondit en alignant le plus vite possible les signes en braille. « Alors on accélère. Si le récit de cette vipère est fini, elles ne vont pas tarder à sortir. » Il avait couché les deux bidons d'essence sous l'atelier. Il n'aurait plus qu'à ôter les bouchons, craquer une allumette, et les planches du wagon s'enflammeraient. Christophe observa la main de son frère se tendre dans sa direction, fouiller dans le vide. Amos, dans son éternelle nuit, était perdu sans lui. Christophe eut pitié, il fit un pas vers lui et serra ses cinq doigts dans les siens. De sa seule main libre, Amos continuait d'écrire. « Non, elles font juste une pause. » Le temps d'encaisser ce que Mina vient de leur avouer. L'histoire n'est pas terminée. » Ils poursuivirent leur conversation tactile comme deux télépathes capables de communiquer par vibration. Dommage pour elles, elles n'entendront pas la fin. Christophe n'avait qu'à tendre le bras pour atteindre le premier bouchon de sécurité. « Arrête !» La main d'Amos retint celle de son frère. Christophe s'agaça une nouvelle fois. « Lâche-moi, je dois le faire. On a une dette, on a... Arrête et ne bouge plus !» Christophe remarqua seulement alors que son frère ne collait plus son oreille contre la porte du wagon, mais la dirigeait, tel un chien aux aguets, dans une autre direction, vers la sortie du tunnel. « Arrête !» écrivit pour la troisième fois Amos. « Quelqu'un vient !» La capitaine Catel Marel progressait avec prudence dans le souterrain. Ses pieds suivaient les rails, mais ses yeux ne lâchaient pas la voûte de clarté qui s'ouvrait devant elle. Le bout du tunnel. Même seule, elle ne pouvait s'empêcher de bougonner. Pourquoi cette Milana Duval avait-elle eu besoin de fabriquer ses marionnettes dans un endroit aussi isolé? Qu'avait-il de sacré? Pourquoi Renaud et Nanès Duval n'avaient-ils pas récupéré toutes les affaires de belle-maman dans des cartons? Allez hop, on sacrifie un dimanche après-midi et on fait un grand tri! Pourquoi Nanès s'était-elle précipitée ici, seule, plutôt que de l'attendre une heure bien au chaud à la gendarmerie? Pourquoi ne répondait-elle pas au téléphone? Son portable était-il sur vibreur au fond de son sac? La capitaine s'immobilisa, guettant chaque bruit. Car Nanès était ici, elle en avait la preuve. Elle avait repéré sa Clio, garée à l'endroit précis où la route carrossable s'arrêtait, à côté d'un berlingot Citroën rouge. Catel n'avait eu aucun mal à localiser ce wagon abandonné. Doigt de Givet, frontière franco-belge, ligne ferroviaire abandonnée. Une bonne vieille carte IGN avait suffi. Pas besoin de perdre du temps à entrer une adresse approximative sur Google Maps. Catel, derrière le rideau de lumière, apercevait les premiers arbres de la clairière. Instinctivement, elle ouvrit l'étui de son Sig Sauer et brandit son pistolet. Un détail la troublait et la rassurait à la fois. Elle repérait plusieurs marques de pas dans la boue devant elle, au moins 6 traces différentes. Aucune n'était assez longue pour être du 46, mais l'une était assez fine pour être celle d'un jeune enfant entre 3 et 8 ans. Une réunion de famille? Ou bien les deux gueules brûlées étaient-elles venues avec deux complices pour coincer Agnès? Deux complices et un gosse? Ça n'avait aucun sens. La capitaine ne pouvait se fier qu'à une seule certitude, il y avait du monde au bout du tunnel, et elle n'allait pas s'avancer en sonnant du clairon pour annoncer son arrivée. Catel s'approchait de la sortie. Elle distinguait sous les arbres un coin de l'atelier. C'était un wagon de marchandises, un modèle ancien, en bois, presque sans fenêtre. Les feuilles de chêne et de noisetier formaient un chapiteau presque complet au-dessus des rails rouillés. Catel écouta le silence, essayant de ne pas uniquement se concentrer sur le vent bruissant dans les branches, de guetter le moindre autre murmure. Elle avait conscience d'agir aussi stupidement que Nanès. Elle n'avait prévenu personne de sa venue, pas même Jérémy ou Fatou à l'accueil de la gendarmerie. La procédure la plus raisonnable aurait été de mobiliser quelques agents pour l'accompagner, mais il aurait fallu attendre que l'alerte place du Cal soit levée, ou négocier avec le préfet son retrait anticipé. Bref, la journée y serait passée. Tout cela pour un farceur ayant caché un diable à ressort dans une poubelle. Pour un simple coup de téléphone. Une blague que n'importe qui aurait pu... Le temps d'un instant, Catel imagina le pire. Et si cet appel n'était pas une blague, mais une manœuvre de diversion pour qu'elle et sa brigade se retrouvent coincées place du Cal? Pour que la garde autour d'Agnès se desserre? Pour les attirer ici? Nanès d'abord, elle ensuite, seule. Un simple coup de fil, c'était si facile. Katel serra son poing sur la crosse de son Sig Sauer. Elle sortait enfin du souterrain. Une fragile lumière filtrait à travers la canopée, la clairière baignait dans une douce ambiance tamisée. Tout semblait calme. Elle baissa une seconde les yeux vers les 6 empreintes de pas. Trop calme. Katel cessait presque de respirer, tous les sens aux aguets. La vue d'abord. Elle scrutait chaque détail de la clairière. Un trou de verdure à la Rimbaud, mais elle n'avait aucune envie de se retrouver avec 2 trous rouges au côté droit. Dissimulé par cet écrin vert, le wagon atelier semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Les 2 rails l'invitaient à continuer d'avancer, tel un piège à peine masqué. Le tunnel dont elle sortait paraissait une frontière entre un monde réel et imaginaire. Imaginaire ? Elle releva sa mèche et serra le Sig Sauer dans son poing. La capitaine ne devait pas se laisser abuser par l'étrangeté de cette enquête, ces monstres de foire à la gueule brûlée et ce défilé de marionnettes. Les meurtres de Renaud Duval et Bruno Pluvier n'avaient rien d'un film de Disney. Les traces de pas, toujours aussi lisibles dans la boue et l'herbe tassée, se dirigeaient jusqu'à la porte du wagon atelier et s'arrêtaient devant le marchepied. Les 6 étaient donc à l'intérieur, 5 adultes et un enfant. Le regard de Katel se bloqua. Un nouveau sens s'était activé, l'odorat. 2 jerricanes d'essence étaient couchés sous le wagon. 2 fois 30 litres, de quoi tout enflammer en quelques secondes. Aussitôt, l'esprit de déduction de Katel se mit à emboîter les pièces dont elle disposait, enchaînant questions et réponses. Qui avait pu apporter ces jerricanes ? Katel se repassa à toute vitesse l'article du Spravna Plissein, un accident il y a 47 ans, une roulotte d'artistes ambulant entièrement incendiée, une victime et 2 grands brûlés. Quelqu'un voulait-il faire revivre le passé ? Les Slaviques père et fils pour se venger ? Katel braqua son pistolet droit devant elle, puis pivota et balaya l'espace. Ils étaient donc là, quelque part, tout proches. Elle les avait dérangés en plein travail. Tout en continuant de scruter les alentours, elle fit appel à son ouïe. Elle devait repérer le moindre craquement, le moindre mouvement, le moindre souffle. Elle ne parvenait pourtant à percevoir qu'un bourdonnement indistinct provenant du wagon. Une conversation sourde. Nanès était donc à l'intérieur. Avec qui ? Katel fixa encore le tunnel, les rails, les arbres, refusant de baisser la garde. Rien ne bougeait. Les 2 gueules brûlées étaient-elles toujours là ? Avaient-elles fui ? La capitaine recula doucement vers le wagon, s'assurant que personne ne pourrait la prendre à revers, puis patienta de longues secondes. Elle devait rester concentrée malgré ses pensées éparpillées. Le cancer de Milana, son incinération, les cendres dispersées par son fils, ici. Elle aussi, songeait Katel, lorsqu'elle mourrait, voulait être incinérée. Qui aurait bien pu vouloir fleurir sa tombe ? Sûrement pas son chat. Elle ne manquerait à personne, le jour où elle partirait. Mais n'était-ce pas au fond la façon la plus élégante de vivre ? N'aimer personne pour ne causer aucune peine à ceux qui vous survivent ? Un bruissement la tira brusquement de ses divagations morbides. Le craquement d'un lit de feuilles écrasé par un pied. Le son provenait des ombres de la forêt, là où les rails disparaissaient. Katel crispa son doigt sur la détente de son Sig Sauer. Quelqu'un bougeait, là-bas. Quelqu'un qui ne la regardait pas, alors qu'il se trouvait pourtant face à elle. Elle avança vers le sous-bois, prenant soin de braquer son pistolet. Ses tarés pouvaient être armés. Katel aperçut distinctement la gueule brûlée. Le tueur progressait à tâtons entre les arbres, tel un gosse aux yeux bandés et abandonné dans une forêt. L'aveugle, donc. Où était passé l'autre cinglé aux oreilles brûlées ? La douleur déchira le crâne de la capitaine. La canne blanche métallique l'atteignit en pleine tempe. Elle perdit l'équilibre et lâcha son arme. Ce salopard était caché derrière elle. Eut le temps de comprendre Katel. Les bidons et l'aveugle avaient servi d'appât. Un 2e coup de canne lui explosa les cervicales. Puis un 3e. Katel perdit connaissance au 4e. Christophe la frappa encore 3 fois avant qu'Amos ne bloque son bras. « Arrête ! » écrivit-il d'une écriture pressée. Christophe observa les gouttes de sang couler le long de sa canne, le visage embouilli de la capitaine, son corps recroquevillé. Depuis l'incendie de Pilsen, il n'avait plus jamais été capable de contrôler ses accès de violence. Un seul coup aurait suffi pour neutraliser cette flic, mais... Amos s'était accroupi sur le corps inanimé. Il colla son oreille sur la poitrine de la gendarme et resta longtemps ainsi, agenouillé, comme s'il priait. Christophe savait que son frère était capable de percevoir des sons de moins de 5 décibels, avec presque autant de précision qu'un stéthoscope professionnel. Il entendait un battement de cœur, même le plus faible. Au bout de longues secondes, Amos releva enfin la tête. Elle est morte.